Le show du matin.
C'est aphrodisiaque pour moi.
Here it comes. Le show du matin. Oh my God. Le show du matin. Week-end.
Eh ben, c'est ça, là.
Le show du matin week-end.
Avec Carbo.
Ça n'a pas de bon sens.
Ça peut être aussi seulement pour s'amuser.
Radio.
Ça n'a pas de bon
sens. X.
Il y a un vieux dicton qui dit que c'est important de savoir d'où c'est qu'on arrive pour savoir où c'est qu'on s'en va. C'est surtout vrai quand on parle de géopolitique et de conflits, de guerres comme le conflit en Iran présentement. Ça prend de la viande après l'os. Ça prend du contexte. Et présentement, il y a quelque chose qui se passe qui est hyper intéressant. Il y a beaucoup d'analystes qui considèrent qu'à moins d'une capitulation totale des États-Unis en Iran, bien, la guerre pourrait s'éterniser pendant des années, un peu comme on l'a vécu au Vietnam. Puis la vie étant ainsi faite, cette semaine, je lisais Le Temps, qui est un journal suisse. Là, ça fait un peu guindé, doit l'air de dire ça de même, mais c'est la réalité. Il se posait une question intéressante. Est-ce que Trump s'est enlisé en Iran comme Johnson l'était au Vietnam? Puis là, comprenez-moi bien, là, je fais pas de parallèle entre la guerre du Vietnam et la guerre en Iran. C'est zéro comparable. Il n'y a pas de bateau au sol présentement en Iran. C'est des attaques ciblées. C'est un conflit à distance. Vietnam, quand on remonte dans le temps, c'est 58 000 Américains décédés, plus de 300 000 blessés, 2 à 3 millions de civils et militaires vietnamiens, autant au nord comme au sud, tués pendant cette guerre-là. C'est pas pantoute la même game. C'est-à-dire, il n'y a aucun parallèle qui est possible là-dessus, sauf peut-être celui du temps. Le parallèle de l'impuissance, de l'impasse. En 65, Johnson était enlisé comme pas possible. Et juste avant qu'il accentue ses bombardements de façon massive, il a dit une citation qui a marqué l'histoire, puis je pense que ça fait du sens encore aujourd'hui. Il a dit, puis je vais vous la paraphraser, « Je me sens comme un gars qui fait du pouce pris dans une tempête de grêle sur une autoroute au Texas. Je peux pas fuir, je peux pas me cacher et je peux pas la faire cesser. » On dirait que Trump est pogné exactement à la même place quand on parle de l'Iran. J'ai envie qu'on remonte un peu le fil de l'histoire de la guerre du Vietnam et qu'on raisonne sur cette question-là. Pour en discuter, on reçoit le professeur au sein du département d'histoire à l'Université du Québec à Montréal, Christopher Gocha. Monsieur Gocha, bon matin.
Bon matin. Merci beaucoup de me recevoir ce matin.
Ben écoutez, merci à vous de prendre le temps de discuter avec nous ce matin. C'est super apprécié. Avant de vous poser la question que j'ai fait résonner dans mon introduction, Monsieur Gocha, j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'établir les bases de la guerre du Vietnam, qu'on en remonte le fil du temps. J'ai l'impression que c'est une guerre dont on parle plus énormément aujourd'hui. Pourtant, ça a impliqué des dizaines de milliers de soldats canadiens. C'est une guerre qui a duré 20 ans. Ça a eu un effet dévastateur au Vietnam, mais aussi aux États-Unis, là, pour moi, ça a été un peu la fin du mirage politique, de l'espèce d'État infaillible, l'État-providence. De votre point de vue, vous qui êtes un expert sur la question, comment la guerre du Vietnam a changé l'Amérique?
Ben, en fait, je pense qu'il faut, vous l'avez bien dit, il y a deux guerres, en fait, deux guerres de 30 ans. Hein, donc, la guerre commence en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est Ho Chi Minh, que tout le monde connaît, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais qui a déclaré l'indépendance du Vietnam. La France, qui était le pays qui avait colonisé donc, le Vietnam au 19e siècle, de Charles de Gaulle, en fait, il est contre donc, la décolonisation, l'indépendance du Vietnam. Et donc, c'est le début de ce qu'on appelle la guerre d'Indochine entre les Français d'un côté et bah, les soldats de Ho Chi Minh, du général Giap, qui va faire la guerre aussi contre les Américains. Et cette guerre-là, ça va durer jusqu'en 1954. Donc c'est la première guerre d'Indochine. Mais pendant cette guerre-là, les Américains, dans le cadre de la guerre froide, vont intervenir pour endiguer la Chine communiste de Mao Zedong, endiguer donc l'Union soviétique de Staline et Khrushchev. Et donc, ils vont entrer déjà en 1950 dans cette guerre. Mais là, vraiment, après la fin de la guerre entre les Français et les Vietnamiens, bah, ils prennent la relève. Et donc là, c'est le début de la Seconde Guerre d'Indochine, ou si vous voulez, la guerre du Vietnam. Et donc, c'est l'Amérique qui intervient de plus en plus. Et vous l'avez très, très bien dit tout à l'heure, bon, bah, c'est le président Johnson qui va intervenir directement. Donc, il va envoyer l'armée. Et on arrive en 1968 à la fin de son mandat. Il y a un demi-million de soldats américains qui sont au Vietnam du Sud hein, pour le défendre contre Ho Chi Minh qui est dans le Nord maintenant après la fin de la guerre d'Indochine. Et il lance également, vous l'avez bien dit, bah, les avions, les B-52, les bombardements massifs contre donc le Vietnam du Nord. Et donc ça, c'est la Seconde Guerre. Et cette Seconde Guerre va durer jusqu'en 1975. Mais c'est une, il faut le dire, à mon avis, on peut revenir là-dessus tout à l'heure si vous voulez, mais c'est une défaite. Il voulait donc défendre le Vietnam du Sud. Il n'arrive pas à vaincre le Vietnam du Nord et leurs soldats dans le sud du Vietnam. Malgré les bombardements massifs, malgré la puissance de la machine américaine, malgré le fait, il faut le dire également, un peu comme en Iran, ben les Américains, ils ont une machine de guerre très puissante. Ils n'ont pas perdu une bataille sur le terrain, si vous voulez, mais ils n'ont pas pu imposer leur volonté au Vietnam du Nord, de même que pour l'instant, Trump il n'arrive pas à imposer la volonté américaine aux Iraniens. Donc voilà, vite, en deux minutes, il y a deux guerres, donc entre 45 et 54, et puis entre 54, disons, et 75, date à laquelle les Américains, ils se retirent, ils retirent l'armée finalement. Et c'est la chute, donc, de Saigon. Et le Vietnam de Ho Chi Minh, qu'il avait déclaré indépendant en 45, eh ben, il va reprendre tout le Vietnam à partir de 75, et c'est le Vietnam qui existe jusqu'à nos jours. Les communistes, les hommes de Ho Chi Minh, ils avaient gagné cette guerre.
C'est fascinant. C'est un régime communiste encore aujourd'hui, comme vous venez de le dire. Puis ça me sidère parce que je pense que ça a été légèrement démocratisé au tournant des années 80, peut-être en 85-86. C'est-à-dire on a lâché un peu lousse sur l'aspect communiste. Ouais. Cependant, c'est toujours un régime communiste. Est-ce que c'était principalement ce que les Américains voulaient empêcher? C'est-à-dire que la Chine et la Russie s'étaient alliées aux forces du Nord. Est-ce que c'était pas plutôt une façon de combattre ces deux puissances-là et par le fait même d'essayer des nouvelles techniques militaires où il y avait vraiment l'impératif de « on veut pas que le communisme s'étende davantage ».
L'une n'empêche pas l'autre, on est bien d'accord.
Hein? Oui, ça c'est un bon point.
Donc on sait bien que la guerre génère des nouvelles techniques, innovations, et c'est même avec les drones et tout ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, la guerre d'Iran, c'est la même chose. Donc pour répondre, Maxime, à votre question, oui et oui. Donc c'était pour endiguer le communisme pour des raisons géopolitiques. Et puis c'était aussi un moyen d'utiliser des armes de plus en plus sophistiquées, dont la napalm, par exemple, qui était issue de la Seconde Guerre mondiale, mais qui est quand même utilisée pendant la guerre du Vietnam. Et puis, les herbicides, les défoliants, Agent Orange, par exemple, est utilisé par les Américains entre 1962 et 1974. Et puis, c'est Kennedy au début, Johnson, Nixon après, mais au total, les Américains, ils ont déversé quand même presque 20 millions de tonnes de Agent Orange, des herbicides, sur le Vietnam surtout.
Ouais, et puis encore aujourd'hui, il y a des générations qui en souffrent. Il y a certains sols qui sont incultivables encore aujourd'hui. Les forces du Nord, pouvez-vous m'en parler un peu? Parce que je les trouve extrêmement intéressantes du point de vue de leur capacité à mener un combat dans des sols montagneux, des sols qu'ils maîtrisaient comme le fond de leur poche, mais aussi au point de vue de leur capacité à construire des tunnels. Au moment où ils envahissent Saigon, ils l'ont fait à plusieurs reprises pendant la guerre, à Kuchi, juste en parallèle de Saigon, un peu plus au nord, ils se mettent à construire des tunnels, à plus savoir quoi en faire. Comment ils ont développé ces capacités-là de construire des tunnels?
Je dirais deux choses pour répondre à votre question. Donc, ce qui est très intéressant chez les Nord-Vietnamiens, les hommes de Ho Chi Minh, les communistes, si vous voulez, c'est qu'ils ont créé une armée conventionnelle. Donc, souvent, on dit que les guerres du Vietnam, comme la guerre d'Indochine, comme Afghanistan, l'Irak, c'est des guérillas, des insurgency, hein, comme on dit en anglais. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les hommes de Vong Nguyen Giap, le général Giap et Ho Chi Minh, ils avaient quand même créé une armée conventionnelle. Donc, Dien Bien Phu, la grande bataille contre les Français à Dien Bien Phu, c'était pas les guérillas, c'était une guerre de tranchées. Exact. Donc, c'était l'artillerie utilisée par les deux côtés. Donc, ça, c'est peut-être une première chose, peut-être pour ceux qui vous écoutent, c'est qu'on est devant une armée pendant les guerres du Vietnam qui est moderne, professionnelle, endivisionnée. Deuxième chose pour répondre à votre question concernant les tunnels, la réponse simple, c'est qu'il fallait construire, il fallait s'enterrer pour éviter l'artillerie extrêmement puissante de la part des Américains, beaucoup plus puissante que celle des Français. hein, mais aussi c'est des bombardements massifs. Donc je reviens vite, si vous me permettez, Johnson, il a lâché l'armée de l'air, un peu comme Trump le fait aussi, en pensant que bah, c'est les puissances de mes avions, des bombardements qui vont me donner la victoire. Mais non, hein, donc il y avait le refus évidemment des communistes, des hommes et des femmes de Ho Chi Minh, mais ils avaient créé des moyens pour se défendre contre ces bombardements. Donc ça explique les tunnels de Kuchi, il fallait cacher les bases, la piste Ho Chi Minh aussi, c'est un moyen, c'est pas un tunnel, mais je suis bien d'accord. Mais il fallait donc cacher la logistique, les routes de ravitaillement, qui reliait donc le nord au sud en passant par le Laos et le Cambodge. Et donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'était une innovation. C'était une réponse à la puissance américaine, mais qui permettait aux Vietnamiens de durer et de ne pas céder, et jusqu'à ce que les Américains ils lâchent le morceau, si vous voulez.
Les images de cette guerre-là, on dit souvent du conflit vietnamien que ça a été le premier grand conflit télévisé de notre ère du 20e siècle. Ça a changé beaucoup de choses dans la perception que les Américains, autant que les Canadiens, se faisaient de la guerre. Est-ce que vous pensez que ça a encore des répercussions aujourd'hui sur la conception qu'on se fait de la guerre?
Je pense bien, et vous ne vous trompez pas en disant que c'était vraiment la première guerre télévisée. Ce n'était pas le cas de la Seconde Guerre mondiale, ni de la guerre de Corée. Mais là, il y avait quand même une conjoncture qui fait que la guerre du Vietnam a été filmée et photographiée ici. Je sais pas, je peux vous donner au moins 3 exemples. Il y a quand même le bonze bouddhiste dans le Vietnam du Sud qui s'immole en signe de protestation contre le régime de Mo Dinh Diem qui était soutenu par les Américains. Et donc, il va s'immoler, hein, il va se tuer devant les caméras et devant les photographes aussi. Il y avait aussi l'offensive du Tet. Tet, c'est le nouvel an vietnamien. C'est donc au mois de janvier-février 1968. Oui. Et les Nord-Vietnamiens, ils ont lancé une attaque, une offensive énorme contre les grandes villes du Sud-Vietnam.
Sur plus de 100 et points, là, à peu près. Là.
Et là, j'allais juste dire que les grandes télévisions, les correspondants, ils étaient là pour le filmer. Et donc, ils ont filmé cette attaque. Et donc, les Américains, ils regardaient ça, même dans ma propre famille, j'ai une partie de ma famille aux États-Unis, et bien, ils regardaient ça dans les années 60, ils se disaient, attendez, on nous disait que tout se passait bien. Et on voit là, ici, que les Nord-Vietnamiens sont en train d'attaquer Saigon, et même l'ambassade des États-Unis à Saigon. Donc ça, c'est un autre exemple également qui montre bien l'impact des images de la télévision sur l'opinion publique. Et donc ça a quand même... Ça n'a pas facilité la tâche de Johnson et certainement pas la tâche de Richard Nixon à partir de 1969.
L'attaque du Tet, là, c'était une attaque qui était immensément bien coordonnée, même si l'attaque de l'ambassade, finalement, les Américains ont réussi à reprendre l'ambassade après quelques heures. C'est quand même une prouesse de guerre, ça.
Et oui, donc vous avez raison de dire qu'ils n'ont pas entré dans l'ambassade, ils ont été repoussés.
Exact.
Mais encore une fois, c'est les images qui montraient le fait que, on nous disait qu'on était en train de les gagner, et là, les Nord-Vietnamiens, ils sont juste à l'extérieur de l'ambassade. Donc, à quoi bon cette guerre si on ne peut pas les gagner?
Exact. Puis, ça a probablement aussi forgé l'opinion publique du côté canadien. J'ai été flabbergasté d'apprendre, M. Gauchat, qu'on a eu des Canadiens qui ont traversé la frontière. On parle d'environ 40 000 entre 59 et 75 qui auraient pu rejoindre l'armée américaine, mais il serait environ 12 000 à avoir effectivement été envoyés au Vietnam. Est-ce que c'est vrai?
Absolument.
Ah oui.
Hein? Je pense qu'on a cette image. On connaît bien l'histoire des Américains qui sont allés au Canada, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Mais on connaît moins bien cette histoire fascinante qui a été dévoilée seulement il y a 10, 15, 20 ans au maximum, hein, qui montre bien qu'il y avait quand même environ 30 000 Canadiens qui se sont portés volontaires dans les forces armées américaines lors de la guerre du Vietnam. Alors, juste pour ceux qui nous écoutent, le Canada n'était pas impliqué officiellement dans la guerre du Vietnam. Ça n'empêche qu'il y avait quand même 30 000 Canadiens qui se sont portés volontaires et, comme vous l'avez très, très bien dit, environ 10 000, 11 000, 12 000 qui ont servi au Vietnam. Et sauf erreur de ma part, il y a eu une centaine de soldats canadiens qui sont morts au Vietnam, si bien que je pense qu'on peut visiter, je ne le pense pas, je sais qu'on peut visiter, même si je ne l'ai pas fait moi-même, un monument qui a été érigé en 1995 à Windsor, dans la province d'Ontario, en hommage aux Canadiens qui ont servi au Vietnam. Et ça s'appelle en anglais « the North Wall », donc le mur du Nord, donc qui commémore justement ces Canadiens qui sont allés se battre au Vietnam.
C'est fascinant, ça, ces Canadiens-là qui passaient de l'autre bord de la frontière. Est-ce que c'est parce qu'ils fuyaient une pauvreté? Ils avaient envie d'aventure? Quel genre de personnes faisaient ce voyage-là?
Oui, c'est une bonne question. Il y a plusieurs raisons. Je pense qu'il y a des raisons comme celles que vous venez d'évoquer. Il y avait aussi, il faut le dire, des raisons idéologiques. Hein. Donc, il y avait des Canadiens qui croyaient qu'il fallait se battre contre la menace communiste. Je pense qu'il y avait parfois des liens familiaux, des choses comme ça à travers la frontière qui expliquaient des choses. Mais c'est une vraie histoire. J'allais juste dire, si vous me permettez, il y avait aussi une intervention officielle de la part du Canada dans la guerre du Vietnam. Et ça commence à la fin de la première guerre d'Indochine, donc entre Ho Chi Minh et les Français. Pendant les accords de Genève qui ont mis fin à la guerre, eh ben, ils ont demandé aux Canadiens, avec des Polonais et des Indiens, de siéger une commission internationale de contrôle, un peu pour surveiller la mise en place des accords de Genève. Et c'est une histoire qui n'est pas très, très bien connue, même s'il y a des gens qui travaillent là-dessus en ce moment. Mm-hmm. Mais le Canada était officiellement, donc c'était des militaires et des civils, mais qui faisaient partie d'une commission internationale. C'est le début, en fait, des peacekeeping à la canadienne.
Ah oui, c'est là que ça a débuté.
C'est vraiment là, ça commence là, la première fois qu'on fait appel aux Canadiens et d'autres aussi. Et donc là, c'est en 1954 et ça va durer jusqu'en 1974, 73, 74.
Juste après que les Américains quittent le pays, finalement.
C'est cela, oui. Tout à fait.
Les Américains se retirent en 73. L'accord de Paris est signé. Saigon chute en 75. Comment ça s'est terminé, cette guerre-là?
Ça s'est soldé par un échec pour les Américains. Malgré cette puissance, cette machine de guerre, malgré le fait qu'ils n'aient pas perdu une seule bataille sur le terrain, ils ont perdu la guerre. Et c'est le risque Trump, si vous me permettez, pour revenir sur le parallèle, parce que je pense qu'on peut le faire.
Et ce sera notre dernière question, M. Gaucha. Le parallèle, est-ce qu'il est valable? Est-ce que c'est complètement illogique de faire un lien entre Trump, l'Iran, Johnson et le Vietnam?
À mon avis, ce qui est très étonnant pour nous, un peu, j'ai dit ça modestement, des spécialistes de la guerre du Vietnam, mais aussi lorsqu'on voit la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, c'est juste que cette idée selon laquelle on peut gagner une guerre par la puissance aérienne, on sait bien que c'est pas donné, c'est absolument pas donné. Et pourtant, Trump, il s'est lancé dans la guerre d'Iran en pensant que les Iraniens, ils allaient, démissionner en quelques jours. Et donc, si vous voulez, on a déjà vu ce type de guerre. Donc, je pense qu'il risque fort d'avoir quelques petits problèmes dans l'avenir proche, peut-être long, hein, mais cette idée selon laquelle on peut s'appuyer sur l'armée de l'air pour tout régler, des problèmes politiques, c'est faux. C'est très, très risqué de sa part, parce qu'il suffit que les Iraniens, ils résistent, comme ils sont en train de le faire, un peu comme les Vietnamiens l'ont fait pendant la guerre du Vietnam. Et à un moment donné, les Américains, ils doivent choisir. Soit on envoie l'armée de terre sur place, je vois mal ça arriver à titre personnel.
Moi aussi.
Ou bien on doit essayer de trouver une solution diplomatique pour se retirer. Alors, c'est à suivre. C'est la seule chose que je peux vous dire pour l'instant.
Comme quoi, l'histoire se répète toujours. Hein?
C'est un peu ça quand même. Mais je suis un peu étonné, si vous me permettez, en tant qu'historien, que...
Vas-y.
On ne les écoute pas tout le temps. Hein?
Est-ce qu'on devrait vous écouter plus en tant qu'historien?
Oh ben ça me ferait très plaisir. Je serais tout seul.
Écoutez, M. Gaucha, on l'a fait ce matin. Merci beaucoup. Vous êtes professeur au sein du département d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Vous vous appelez Christopher Gaucha. On a mis un peu de viande après l'os. Ça a été un vrai plaisir de vous parler ce matin. Je vous souhaite une excellente journée.
Ben vous aussi. Merci beaucoup. Hein?
Merci. Prenez soin de vous. On s'en va à la pause? On en revient juste après.
Le show du matin. Weekend. Radio X.